L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans un LEM que nous partageons avec l'Association d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, le CICODES. C'est le dernier de la saison, puisque de toute façon, c'est la fin de la saison. On voulait terminer en beauté, quoique le sujet est douloureux, mais le travail du CICODES n'en est que plus utile. Parmi les nombreux sujets dont traite l'association au chapitre citoyenneté, il y a le sexisme. L'égalité femmes-hommes, filles-garçons, elle a progressé, c'est indéniable, mais concrètement, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Il y a des blocages, comme le nombre de femmes tuées chaque année par leur conjoint, un nombre qui reste toujours à peu près le même. Et c'est sans doute révélateur qu'on a encore besoin de travailler en profondeur à ne plus inférioriser les femmes, les filles, mais souvent c'est inconscient. Et justement, des associations comme le CICODES travaillent sur ça aussi, et c'est intéressant d'avoir leur regard d'éducatrice sur ce sujet. Par exemple, d'écouter l'expérience de notre invitée, Amandine Barbieux-Dutoit. Bonjour Amandine.
Bonjour.
Alors peut-être déjà convient-il finalement de définir ce que c'est que le sexisme ordinaire, enfin par quoi ça peut passer en fait?
Alors le sexisme qu'on peut retrouver dans notre vie de tous les jours, hein, ça peut se passer dans la rue, ça peut se passer au travail, ça peut se passer à l'école, ça se passe aussi dans la vie quotidienne. En fait, c'est plein de petites choses qui peuvent être prises de façon plus ou moins violente par les personnes, par les victimes. Mais effectivement, il y a plein de petites traces de sexisme qui finalement nous entourent.
Alors, quand vous allez donc, les publics avec qui vous travaillez, c'est qui?
Essentiellement les adolescents. Donc collège, lycée, de temps en temps on aborde la question dès le primaire, en classe de CM1, CM2 alors plutôt.
Ah oui, d'accord. Et donc là, j'imagine que là, l'approche est différente quand c'est le primaire, peut-être, non, pas forcément
L'approche est différente, les outils sont différents. Maintenant, les objectifs pédagogiques sont les mêmes. C'est viser l'égalité entre les filles et les garçons, prendre conscience de ces stéréotypes et de ces préjugés.
Et alors, comment est-ce que vous commencez, comment vous abordez justement cette question des stéréotypes?
Alors, on commence souvent par un débat mouvant. En fait, on aime beaucoup, nous aussi, CICODES, partir du vécu des enfants, des jeunes, de leur poser la question et de voir ce qu'ils pensent de la situation. Donc, on va commencer par un débat mouvant. Par exemple, on leur demande s'ils sont d'accord ou pas d'accord avec une phrase telle que, par exemple, les filles réussissent mieux à l'école que les garçons. Êtes-vous d'accord ou n'êtes-vous pas d'accord?
Donc un débat mouvant, il faut peut-être expliquer pour les auditeurs.
Oui, alors en fait, dans une salle, on place d'un côté une petite affiche qui indique le fait d'être d'accord. Et juste en face, on a la même pancarte, mais qui affiche « pas d'accord ». On pose la phrase, hein, l'énoncé. Donc par exemple, les filles sont plus douées à l'école que les garçons. Et on invite les élèves à se lever, à se positionner en dessous d'une des cartes, en fait, selon leur réponse et selon leur avis personnel.
Et qu'est-ce qui se passe après?
Alors après, ils débattent entre eux. Voilà. Bon. Je donne la parole à certains jeunes, hein, qu'ils soient d'un côté ou de l'autre. Et puis entre eux, ils argumentent. Alors bien sûr, on pose bien le cadre, hein, du débat. Hein, c'est le respect de la parole de l'autre, c'est l'écoute. On explique bien qu'on peut ne pas être d'accord entre nous, mais qu'on est là pour essayer de comprendre pourquoi on n'est pas d'accord. Quelles sont nos références? À quoi pense-t-on exactement? Peut-être certains ont des chiffres en tête. Et donc c'est le moment aussi qui permet à chacun et chacune de s'exprimer, voilà, en apportant tout son savoir et ses informations et sa vision du monde aussi.
Et alors cette question, est-ce que les filles réussissent mieux à l'école? Qu'est-ce qu'ils répondent en général?
Alors c'est assez, c'est finalement d'une classe à l'autre, on peut avoir des réponses très différentes. Je ne peux pas dire que tous les garçons vont répondre qu'ils ne sont pas d'accord et toutes les filles vont être d'accord. C'est vraiment très changeant et très variant. En fait, les jeunes sont plutôt, en général, par rapport à ce type de phrase, mitigés, on va dire. Il y en a qui vont se dire, ben voilà, par rapport à ce que je vois dans la classe, effectivement, les filles réussissent mieux que les garçons. D'autres vont prendre les exemples au niveau national, de dire, ah ben, moi, je connais les résultats du bac ou moi, je connais les résultats des examens d'entrée en haut écoles, etc. Nous, on est là pour recueillir ces informations et pour dire, mais voilà, il n'y a pas finalement de bonnes ou de mauvaises réponses, tout dépend aussi du point de vue. Et qu'on prenne un chiffre ou l'autre, on peut se dire, ben voilà, moi, je suis d'accord ou pas d'accord.
Quelles sont les autres formules, enfin les autres exercices comme ça pour...
Alors, on part comme ça sur des phrases de débat mouvant assez larges sur des idées un petit peu toutes faites. Et puis très vite, en fait, on va poser des questions sur leur vécu à eux. Donc, par exemple, une phrase suivante, ça peut être dans une relation amoureuse, est-ce toujours au garçon de faire le premier pas ? Voilà. Et là, au niveau du débat...
Vaste sujet.
Ah ben voilà. Là, ça commence un petit peu à discuter vraiment et plus fermement. Et on voit que les références des uns, des autres, peuvent être différentes. Et là, c'est pareil. Je ne peux pas affirmer que tous les garçons vont dire oui, tous les garçons vont dire non. C'est très changeant d'une classe à l'autre, en fait.
Oui, puis il y a peut-être eu des évolutions quand même, là, sur ce type de questions. Ça fait combien de temps que le Psychodes pratique ses ateliers ?
Maintenant, ça va bien faire 5-6 ans. Qu'on travaille sur ces ateliers-là. Alors oui, il y a des évolutions, mais maintenant, pour certaines jeunes filles, c'est toujours trop difficile de faire le premier pas pour elles. Et donc, elles estiment que c'est aux garçons de faire le premier pas. Alors, les garçons, finalement, répondent très vite. Hein, mais pour nous aussi, c'est pas...
Ah oui, alors.
Nous aussi, on peut être timide et c'est pas très agréable de faire le premier pas. Voilà. Et du coup, ça en suit une conversation entre eux, en fait. Et ça permet vraiment aussi, après, de faire émerger des représentations et aussi d'où viennent ces idées-là. Alors, je change un petit peu la phrase et je leur dis, et par exemple, si on ne dit pas faire le premier pas, mais la demande à mariage. Ah, mais là, la demande à mariage, madame, ben là, c'est obligatoirement le garçon. Voilà.
Ah bon ?
Et on pose la question, mais et pourquoi ? Ah, parce que c'est la tradition. Et puis voilà, on explique aussi d'où vient cette tradition. Hein, c'est le roman courtois, c'est le code de la chevalerie, etc. Et donc, c'est vrai qu'ils sont assez... finalement, le fait qu'on soit tributaire et qu'on ait encore cet héritage qui date du code de la chevalerie, c'est très ancestral. Hein. Voilà.
Est-ce qu'il y a parfois des réactions, alors je ne sais pas, d'hostilité, enfin, ou moins de défensive de la part de certains enfants dont justement les préjugés sont remis en question
Oui, parfois. Parfois, certains jeunes peuvent avoir des idées arrêtées. Alors, très régulièrement, quand ces jeunes-là peuvent avoir... expriment une première fois leurs idées et puis après, finalement, prennent peu la parole, mais écoutent. Voilà, écoutent et ne s'opposent pas pour autant.
Mmh,
voilà, d'accord. Alors derrière, nous, on déconstruit, hein, on essaye de montrer d'où viennent ces préjugés, ces stéréotypes, etc. Mais voilà, ils ne sont pas agressifs. On n'a jamais eu d'agression sur ces questions-là si fortes.
Quels sont les préjugés qui vous paraissent les plus répandus, des deux côtés d'ailleurs, hein, que ce soit des filles ou des garçons de cet âge-là ?
Alors, c'est surtout, nous, en tout cas, ce que les jeunes peuvent penser, c'est plutôt ce qui nous tient le plus, enfin, quelque part, qui nous marque le plus, c'est dans leur relation entre eux. Et c'est dans leur relation amoureuse, qu'est-ce qui est permis par une fille, qu'est-ce qui est permis par un garçon ? Et là, quand on confronte leurs idées, eh bien, on voit qu'il y a une réelle différence qui est du sexisme, hein, et qui n'est pas juste. Et les filles s'en rendent compte et les filles en souffrent.
Et est-ce qu'ils ont, par exemple, est-ce que vous travaillez sur les clichés plus sociaux, enfin, je ne sais pas, les métiers, par exemple, ou les...
Oui. Alors, au travers un autre jeu, donc après le débat mouvant, on leur propose de jouer à un jeu qui s'appelle le carré genre. On distribue, on met les élèves par binôme et on leur distribue un petit carré sur lequel...
Binôme garçon-fille ou binôme non ?
Non, peu importe. Je prends le binôme de la classe, hein, la personne à qui ils sont à côté. Et je leur distribue, donc sur le carré est notée une phrase alors, qui va aborder différents champs de la vie quotidienne. Donc par exemple, on va retrouver planifier, organiser, ça c'est pour moi. On dit que diriger un chantier, c'est mon affaire. Ou alors, des questions aussi plus complexes, comme je n'ose pas avouer mon homosexualité à mes parents. Les élèves, donc moi, sur le tableau, je trace je fais deux colonnes et je trace d'un côté garçon-fille. Et la question est la suivante. À votre avis, qui dit le plus souvent cette phrase ? À votre avis, est-ce plus souvent des garçons ou est-ce plus souvent des filles ? De façon très spontanée. Alors, ils vont coller leur petit carré au tableau et puis on prend du recul et on observe. Et là, on donne la parole. Enfin, moi, je donne la parole aux filles, je donne la parole aux garçons sur ce que finalement ce tableau, ces deux colonnes, fait émerger de leur image, de l'image des garçons, de l'image des filles. Et je leur demande s'ils sont en accord avec cette image-là. Et là, très vite, ça réagit. en fait. Alors, ces deux colonnes permettent en fait de faire émerger les préjugés, parce que je ne leur dis pas est-ce que ce que vous, vous pensez, mais dans la majorité des cas, que pensez-vous ? Qui pensez-vous ? Dit le plus souvent cette phrase-là. Donc, finalement, ça permet de, vraiment de montrer les préjugés et les stéréotypes dans la société. Pas nécessairement leurs préjugés à eux. Donc ça permet de prendre un petit peu de distance. Et puis après, ils s'expriment sur ces préjugés et sur ces stéréotypes.
Et ils ont quand même conscience de ça,
enfin, ah,
de...
Oui. Mmh. Ah oui, par exemple, si on prend la question de l'homosexualité, tous vont nous dire qu'il est beaucoup plus difficile pour un garçon d'expliquer son homosexualité que pour une fille.
Ah oui, tiens. Et comment est-ce qu'ils expliquent ça ?
La peur du... Alors, est-ce qu'il explique ? Il n'explique pas vraiment. En tout cas, il le constate. Il le constate et il le constate entre eux aussi que pour un garçon, expliquer son homosexualité à ses pairs, ça peut être beaucoup plus compliqué pour lui. Voilà, il peut être beaucoup plus victime de moqueries, de violences, d'harcèlement, de cyberharcèlement que pour une fille.
Ah ouais. Et ça, on le sait pourquoi ? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a eu des études là-dessus ?
Alors, il n'y a pas nécessairement eu d'études. Maintenant, c'est une question aussi d'image de l'homme, l'image de l'homme, l'image de la femme. Et peut-être que l'homosexualité, finalement, dénote avec cette image qu'un homme doit être viril, un homme doit être fort et qu'on assimile l'homosexualité à une certaine forme de fragilité, quelque part. Hein.
Et justement, enfin, c'est des débats qui traversent aussi la société sur enfin, ces nouveaux mots qui sont apparus, transgenre, intersexe, etc. Comment est-ce que vous abordez ça aussi avec les enfants, la différence entre genre, sexe, le fait d'être pas forcément ni une fille ni un garçon, puisqu'il y a des gens qui se sentent ni fille ni garçon. Enfin...
Oui, tout à fait. Alors, la question ne vient pas toujours. En primaire, par exemple, les enfants sont un peu plus, ont un peu moins conscience de l'existence de ces personnes-là et puis des termes. Par contre, c'est vrai qu'au collège et au lycée, on peut l'aborder. Alors nous, en fait, quand on explique à la suite des carrés genres, hein, on explique un petit peu, mais finalement, on voit bien que ces carrés genres, on pourrait les mettre d'un côté chez les filles, d'un côté chez les garçons, parce que la planification, le fait de diriger des chantiers, etc., finalement, on n'est pas né homme, on n'est pas né femme. Et en ayant ça, finalement, ces capacités-là ou ces compétences-là dans nos gènes, quelque part. Tout ça, c'est ridicule. Et du coup, on pose la question aux jeunes, mais finalement, alors, être un garçon, être une fille, ça veut dire quoi ? Et ça vient de où ? Et c'est là qu'on définit le concept de genre, qu'on définit aussi le terme d'identité sexuelle et qu'on peut parler de la binarité ou de la non-binarité des personnes.
Oui, ça, je pense que c'est important quand même à cet âge-là parce que je pense que c'est un âge où beaucoup se cherchent finalement. Ça peut même être très mouvant pendant quelques années.
Oui, et puis il y a eu des figures connues de chanteurs qui ont affirmé, hein, qui ont montré sur scène aussi la question d'être le fait d'être transgenre. Donc voilà, effectivement, ils ont envie aussi d'en parler. Ils ont des questions en fait, et à ces questions, il faut apporter des réponses.
Alors, il y a le débat mouvant, le jeu des carrés genres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme animation ?
Alors après, on va davantage vraiment discuter avec eux de leur vie quotidienne. Et ce qu'on leur propose, c'est de travailler par petits groupes sur des situations que nous avons récoltées, de témoignages de jeunes que nous avons dans nos ouvrages ou sur des sites internet, ou lors de nos formations, des situations de sexisme. Et on leur demande d'échanger à partir de ces situations. Que se passe-t-il dans la situation ? Que peut-on faire aussi pour réagir ? Et comment se sentent les victimes ? Comment se sent aussi la personne éventuellement qui émet l'acte de sexisme ?
Est-ce qu'on peut avoir un exemple, par exemple, de situation ?
Alors, par exemple, on va avoir des choses, plus générales et qui vont concerner plus de monde. Donc, par exemple, la question de l'habillement des jeunes filles au lycée, au collège, le fait d'avoir une mini-jupe, est-ce que certains garçons viennent titiller la fille qui a une mini-jupe, regarder en toute sa jupe, la soulever, etc. Est-ce que c'est permis ? Est-ce que c'est pas permis ? Bien sûr que non, ce n'est pas permis. Le règlement de l'école, du collège, du lycée l'interdit. C'est une atteinte à la pudeur, c'est une atteinte au corps. Comment réagir au sein de l'établissement ? Et donc là, je donne la parole aux enseignants pour dire quelles punitions peuvent éventuellement être mises en place pour les garçons. Et on va avoir des situations aussi beaucoup plus personnelles. Donc par exemple, des situations de couple, où par exemple une jeune fille, à la demande du petit copain, a envoyé des photos intimes d'elle. Et puis, voilà, elle souhaite quitter son petit copain parce qu'elle n'est plus amoureuse, voilà, pour d'autres raisons. Et le garçon va faire du chantage sur ses photos envoyées. Alors, sur ce type de situation, on décortique vraiment, on explique aux élèves, aux jeunes, que ça s'appelle du revenge porn. C'est un nouveau mot qui a été créé pour qualifier ce type de situation parce qu'elles sont réelles et qu'elles sont fréquentes, que c'est un acte illégal, hein, c'est du chantage, la personne n'a pas à faire ce type de, finalement, de pouvoir, à exercer ce type de pouvoir sur la jeune fille, et qu'il faut réagir.
Comment justement ouais, les réseaux sociaux sont intégrés à ces formations, ces ateliers, parce que c'est quand même aussi par là que passent les clichés, que passent les violences.
Oui, et sur la question des réseaux sociaux, il y a différentes choses. Hein. Il y a les questions de cyberharcèlement qu'on va retrouver comme finalement d'autres situations de harcèlement. Hein, il y a la question du revenge porn dont je viens d'évoquer. Il va y avoir aussi la mise en situation et puis les images stéréotypées des filles, des femmes, mais aussi des hommes, hein, sur les réseaux sociaux. Qui finalement, là, va plutôt ressembler à ce qu'on peut retrouver dans les publicités ou dans les séries, etc. Donc, on va analyser. Alors, on n'arrive pas à tout analyser les jeunes. Voilà. par contre, par le biais de situations, d'exemples concrets, on va aborder ces questions-là avec les jeunes.
C'est eux qui choisissent les photos ou c'est vous qui leur apportez les photos?
Non, c'est nous qui apportons les situations et on discute avec eux. Parfois, selon leur réaction, on peut aussi les choisir. Par exemple, il y a des jeunes filles, lors d'une dernière animation, m'ont évoqué la problématique du harcèlement de rue. Des jeunes filles qui ont été confrontées elles-mêmes à du harcèlement de l'exhibition d'hommes, voilà, en lieu public. Voilà. Et elles m'ont adressé l'exemple. Comment peut-on réagir? Et voilà, et par rapport à leur témoignage, moi, je rebondis sur autre chose, alors.
Ah oui, mais c'est difficile de leur... de préconiser exactement une réaction. C'est à elles de trouver peut-être aussi la réaction, non?
Alors, face au harcèlement de rue, de toute façon, et puis face à toute forme de harcèlement sexuel ou non, ou sexiste ou non, il faut déculpabiliser les victimes.
Ah oui, mais elles se sentent vraiment... Fautives, elles ont été victimes comme ça de harcèlement de rue
Fautives, mais surtout honteuses. Honteuses et ne pas oser en parler. Et c'est ce que souvent les enseignants nous disent, hein, c'est quand ils entendent le témoignage de certains jeunes. Ce sont des sujets compliqués à aborder en classe. En fait, ils n'ont pas peut-être pas les outils pour, et puis la relation non plus qui fait que c'est des sujets un petit peu tabous, enfin peut-être pas tabous, mais sensibles. Pour les jeunes, c'est des sujets aussi difficiles à aborder avec leurs parents, parfois.
Ah oui.
Et donc, c'est vrai que nous, on est un petit peu extérieurs et parfois, on a comme ça des témoignages assez sensibles.
Et des témoignages de réaction aussi, éventuellement. Aussi.
Oui, et pour revenir au témoignage, par exemple, du harcèlement de rue, on appuie vraiment là-dessus, on insiste sur le fait qu'effectivement, le harcèlement de rue est une réalité, mais qu'une des façons vraiment de diminuer le harcèlement de rue et de le stopper, c'est l'intervention d'un tiers, d'un témoin dans la rue. Et là, le témoin peut réagir de façon différente. Il peut venir, il peut s'interposer, il peut distraire le harceleur, il peut prendre en photo. Il peut aussi, par exemple, quand ça se passe dans un bar, quand ça se passe dans un bus, par exemple, interpeller une personne responsable de cet espace public. Donc le serveur, le chauffeur de bus, par exemple. Si c'est dans une salle de fitness, une salle de gym, il peut aller le signaler au coach, à l'entraîneur, à la personne qui est à l'accueil. Voilà, ça sont toutes des petites façons d'agir qui peuvent sembler peut-être anodines sur le moment, mais qui réellement ont un impact sur le terrain.
Ces mises en situation, là, elles sont donc discutées, ou est-ce qu'elles sont éventuellement rethéâtralisées après? Est-ce qu'on demande aux jeunes de jouer les scènes et puis de...
Alors, lors d'une seule séance, on ne va pas jusqu'à jouer les scènes. On pourrait. Maintenant, le cadre scolaire ne s'y prête pas toujours bien non plus parce qu'on travaille en petits groupes. Donc, dans une même classe, on va avoir 4 à 5 petits groupes. Donc, voilà, en termes d'espace, après, on n'est pas, c'est pas possible pour tout le monde de le jouer. Mais ça pourrait, oui.
Et quand on préparait cette émission, vous me disiez qu'il y avait des différences, en fait, quand on mettait en situation des filles et des garçons séparément, de retour, en fait.
Oui, alors ça, c'est un autre jeu, ça s'appelle le jeu des situations symétriques. C'est-à-dire qu'on a une trame de situations. Par exemple, deux personnes qui sont assises sur un banc et l'une des personnes vient de se faire larguer par la personne avec qui il était en couple. La personne pleure et donc la personne à côté la prend dans ses bras et pour la consoler. Alors on prend la même situation vécue par deux filles, vécue par deux garçons. Et puis on dit, quelqu'un passe devant les deux personnes qui pleurent. Comment réagit cette personne ? Et les personnes, les jeunes, les collégiens ou les lycéens ou les lycéennes ou les collégiennes qui ont la situation vécue par deux filles vont dire, la personne qui passe devant, il n'y a pas de souci.
Aucune réaction.
Une jeune fille pleure, l'autre la prend dans les bras. C'est tout à fait normal. Et puis je pose la question, est-ce que ça arrive souvent à la cour de récréation qu'une fille pleure ? Ah oui, pas de problème. Et que l'autre la prenne dans les bras ? Oui, pas de problème. On passe à l'autre situation. Et puis là, très vite, il y a ce questionnement. Mais si le garçon prend dans les bras l'autre garçon, c'est qu'il est gay.
Mmh. Ah ouais, tout de suite, quoi. Ouais.
Très vite, très vite. Et je pose des questions, mais rien que le fait de pleurer, est-ce qu'un garçon peut pleurer dans la cour de récréation ? Ah non, c'est quand même très rare.
Ah oui, ça reste encore
tabou. Oui.
D'accord.
Oui. Un garçon a vraiment du mal à exprimer ses sentiments et c'est comme s'il ne pouvait pas pleurer devant les autres, et se faire consoler par un autre garçon qui le prenne dans ses bras, là, c'est comme, il y a une barrière.
Et ce sont les garçons qui disent ça, ou les filles, les deux
Les deux.
Ah oui.
Les deux. Mais très vite, quand on met, donc on appelle ça des situations symétriques, quand on les met face à l'une et à l'autre, ils réagissent, ils disent, mais c'est vrai que pourquoi on réagit comme ça ?
Donc c'est bien, ils se posent la question.
Oui, se posent la question, et nous, on est là pour ça. On va les mettre dans des situations qui vont se poser des questions.
Un autre exemple encore de jeu ?
Alors, par exemple, sur ces situations symétriques, on va prendre le même principe, mais sur un jeune qui va demander à ses parents pour sortir le soir. Voilà. Donc, quelles seront la réaction des parents ? Eh bien, très vite, on peut aussi voir que pour les jeunes filles, les parents vont être beaucoup plus sévères sur l'heure, regardant sur les personnes à qui la jeune fille va sortir, le lieu, l'espace, la tenue, voilà. Que les garçons, beaucoup moins.
Ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Ils vont boire et conduire, d'ailleurs. Et puis, justement, c'est intéressant, cette question-là. Enfin, je suppose que quand le psychodèse mène des animations, c'est peut-être sur une demi-journée. Enfin, ce n'est pas forcément sur le temps long.
Ce n'est pas sur le temps long.
Et donc, comment impliquer les parents dans ce type d'animation
Alors, nous, on invite les jeunes à en parler avec leurs parents. Maintenant, on ne peut pas vérifier. Et puis, c'est parfois pas facile, pour d'aborder ces questions-là avec leurs parents. Après, je pense que les parents se posent des questions, ont ces questionnements-là en tête, mais n'osent peut-être pas en parler avec leurs enfants. Donc après, c'est peut-être aussi le rôle de par exemple, si on est intervenu dans un collège ou dans un lycée, la direction du collège ou du lycée va aussi informer les parents de cette animation.
Et quels sont les retours éventuels ? Est-ce qu'il y en a eu déjà ?
Alors, on a eu dans certains collèges des rencontres avec les parents, suite aux interventions. Et on voit que les parents se questionnent, ont peur aussi pour leurs enfants, notamment sur les réseaux sociaux. Les parents apprécient ces temps d'échange. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de mobiliser les parents le soir, lors de réunions, etc. Voilà.
Et donc, est-ce qu'un même élève peut avoir eu ce type d'intervention, au collège, et puis après une seconde au lycée ? Enfin, combien est-ce qu'on peut espérer en donner aux élèves, en fait ?
Alors, nous, on n'est pas maître de ça, bien sûr. Alors, en général, on n'intervient qu'une seule fois. Auprès de toutes les classes, tout un niveau de classe. Maintenant, certains établissements vont faire le choix de prendre ce sujet pour un travail de longue haleine. Et là, après, c'est plutôt en interne qu'ils vont travailler sur ces questions-là.
Oui, ce serait plus intéressant, c'est ça, d'avoir un suivi.
Vous
arrivez à évaluer, vous-même aussi, Codes, à faire une évaluation pour voir un peu l'impact de ce type d'atelier ?
En tout cas, là... quand on intervient auprès d'une classe, on fait une petite évaluation avec les jeunes. Leurs retours sont très positifs. Et en général, ils disent eux-mêmes que c'est des sujets qu'il faut aborder, qu'ils apprécient ces temps d'échange. Les enseignants aussi, même s'ils sont en retrait de l'animation, ils écoutent. Voilà, sont vraiment conscients de l'importance de ces questionnements avec les jeunes. Mais pour autant, ne se sentent pas toujours capables, compétents, ou aussi n'ont pas toujours la légitimité, ne se sentent pas légitimes pour aborder ces questions-là avec les jeunes.
Le CICODES ne propose pas de formation professionnelle aux enseignants là-dessus, quoi.
Alors cet après-midi, il y a un petit atelier sur la lutte contre le sexisme et l'homophobie proposé à partir de 15h30 à l'espace associatif. Voilà.
De Quimper.
Et c'est proposé aux animateurs, aux enseignants, aux parents. Voilà. À tout adulte qui se pose des questions sur ces questions-là.
Et puis vous êtes venu avec un livre que vous souhaitiez nous recommander. Alors, est-ce qu'on
peut
en dire un mot ?
Alors, c'est un petit livre qui s'appelle « Contre le harcèlement sexuel », écrit par Edith Caron et Nadia Leila Aïwi-Saoui. C'est un petit livre... Bon, le titre « Contre le harcèlement sexuel » est un petit peu trompeur parce qu'en fait, il va être beaucoup plus large et général que le harcèlement sexuel. Il se présente sous forme d'abécédaire. Donc, par exemple, au mot A, on va avoir l'adolescence, l'amour, l'amitié, mais aussi la question d'abus sexuels, d'attouchement sexuel. Et assez brièvement, en 2-3 petits paragraphes, les autrices vont expliquer ce dont il s'agit, vont définir par exemple l'attouchement sexuel. Et puis après, on va avoir un petit passage, un petit encart concrètement. Que faire ?
D'accord.
Voilà, avec des numéros de téléphone, avec des exemples de projets, des sites internet, des influenceurs, des influenceuses qui vont vraiment aborder ces questions-là.
Et donc, c'est un livre vraiment pour les adolescents, enfin, en priorité.
Oui. Et moi, je conseillerais de le mettre dans toutes les mains des adolescents et des adolescentes d'aujourd'hui.
Eh bien, on le mettra sur le site de Radio Évasion. Merci Amandine.
Super.
Bon, j'espère qu'on retrouvera le CICODES l'année prochaine.
Oui, bon. Avec plaisir. Merci Véronique.
Au revoir.
Bonne journée.